Bonjour à tous. Dans la grande table des idées à partir de 12h55, rendez-vous avec la sociologue israélienne Eva Ilouz pour son nouvel essai « Apicratie » qu'elle co-signe avec Edgar Cabanès. Une injonction au bonheur, qui engage-t-elle et qui sert-elle? Nous tenterons de répondre ensemble à ces questions dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, la littérature, cette affaire de famille. Alors que son grand-père était au centre de la cache, prix Femina il y a 3 ans, dans Le Guetteur, qui paraît chez Stock, il espionne sa mère, qu'il a connue sans la connaître. Femme de paradoxe, aussi insaisissable que rassurante, aujourd'hui morte, hier si vivante. Journaliste à Libé, puis à l'Obs avant de rejoindre la revue 21, Christophe Boltanski est notre invité. À retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée, déjà pauvre, toujours penchée sur quelque chose qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Baudelaire, en exergue de votre livre, Christophe Boltanski, bonjour.
Bonjour.
Est-on encore le fils de sa mère quand on écrit sa légende? Ou est-ce que forcément, il y a une sorte de déplacement qui s'opère? Le personnage devient extérieur, votre mère vous est devenue extérieure en l'écrivant?
D'abord, je pense que c'était la façon pour moi de parler d'elle. Évidemment, j'ai des souvenirs de ma mère, comme tout un chacun, des souvenirs d'une mère drôle, triste, joyeuse, en vacances, lors de fêtes de famille. Mais ma mère, et je pense que c'est vrai aussi que c'est assez universel, avait une part d'elle-même qui était fermée, qui restait irréductible au fils que j'étais. Et c'est cette part-là que j'ai voulu comprendre, cette énigme-là que j'ai essayé de percer.
Votre mère, ou plutôt la femme du coup, c'est peut-être elle que vous êtes allé chercher. Donc là encore, on peut parler peut-être d'un décentrement.
Oui, tout à fait. Donc je me suis intéressé à une femme avant moi et après moi, avant ma naissance, donc quand elle est jeune, étudiante, militante, et après mon départ, quand elle est dans la vieillesse, solitaire, recluse et hantée par ses démons.
Voilà comment commence Le Guetteur. Votre mère vient de mourir, vous débarrassez énergiquement son appartement avec votre sœur, vous jetez, sans trop regarder, d'autant qu'elle accumulait beaucoup, avant de tomber sur une pochette qui contient des ébauches de romans. Ah bon, elle écrivait. Vous êtes surpris, vous saviez que c'était une grande lectrice, mais pas forcément une auteure, ou en tout cas une apprentie, ou une écrivaine désireuse de lettres. Vous voilà un peu intrigué, et de cette surprise, vous choisissez, vous, de faire une intrigue. Et là, je vous cite, curieux point de départ pour un polar, raconter les aventures d'une femme couchée. Comment introduire de la tension, du suspense ou de la surprise dans une vie alitée? Quel mystère cherche-t-on à élucider lorsqu'il ne se passe rien? Peut-on encore parler d'un coupable, d'une ou plusieurs victimes en l'absence du moindre incident? Mon intrigue tombait à plat. À l'instar de mon personnage principal, ce n'était peut-être qu'une histoire banale, celle d'une vieille dame solitaire.
Oui.
Étrange matière pour un début de roman, quand même. Hein.
Mais d'abord, d'abord, c'était pour moi une vraie question, et ça reste une question. Je pense qu'on écrit toujours sur ses obsessions et sur des questions auxquelles on ne parviendra jamais à répondre. Hein, donc, on reviendra toujours à ces questions-là. Mais cette femme, donc, elle que j'ai connue, elle était tout le temps effectivement couchée, allongée, à lire des polars, avec toujours un café au lait à côté d'elle et une cigarette au bec. Et je savais qu'elle adorait les polars, et qu'elle aurait aimé finir un peu en reine du crime, aux cheveux blancs, à la Mary Higgins Clark, écrivant comme ça des romans noirs dans un cottage. Enfin, elle avait toutes ces fantasmes, mais je savais absolument pas qu'elle avait essayé de passer aux actes. Et quand je suis tombé sur cette pochette avec ses débuts de romans, c'était assez bouleversant parce que il y avait 4 débuts de polar qui tous s'arrêtaient au bout de quelques pages. Et évidemment, ça renvoyait aussi à quelque chose dans sa personnalité qui s'était arrêté. Donc je me suis intéressé à ces débuts de textes, et notamment à l'un d'eux qu'elle avait intitulé la nuit du guetteur. Un titre qui était tiré d'une des quelconqueries d'Apollinaire, le guetteur mélancolique. Et donc c'est le point de départ de ce livre et de cette enquête, d'une certaine manière.
Mais on sent, Christophe Boltanski, que quand vous découvrez ces ébauches de romans, vous êtes somme toute assez fier. En plus, vous le dites, elle écrit assez bien, oui. Alors il y a quelques tournures que vous aimeriez reprendre, mais vous êtes assez fier de découvrir cette face cachée de votre mère, dont on va raconter peut-être les dernières années, très solitaire, très recluse dans son appartement. Elle ne jetait rien, elle ne sortait que la nuit, elle fumait beaucoup, elle était assez paranoïaque aussi. Elle pensait que ses voisins cherchaient volontairement, consciemment à lui empoisonner la vie. Mmh. C'était une jeune femme libre et militante, plus jeune. Ce fut une vieille dame solitaire et casanière. Elle a vraiment eu deux vies, en fait. Pourquoi, vous, l'écrivain ou le fils, avoir essayé de réconcilier ces deux vies dans un livre ?
Parce que je... Et ça, c'est quelque chose qui m'avait aussi intéressé dans mon précédent livre. D'abord, ce mélange entre la petite et la grande histoire. Et aussi cette idée que chez pas mal de gens, finalement, il y a souvent un événement qui les a profondément marqués. Et donc, il y a une sorte d'horloge interne brisée qui s'est arrêtée. Donc, je cite... souvent et ça a été photographié souvent dans des grands événements mondiaux, par exemple la guerre civile au Yémen du Sud. Il y a un Big Ben à Aden qui s'est arrêté au déclenchement de la guerre civile. À Fukushima, il y a aussi cette fameuse photo d'une horloge qui s'est arrêtée à l'heure du séisme et du tsunami. Et je pense que ma mère aussi, elle avait cette horloge là interne arrêtée à la fin de la guerre d'Algérie. Et donc c'est pour ça que je pensais qu'il fallait que ces deux histoires étaient liées d'une certaine manière, qu'elle était double, qu'on est souvent double dans le présent et dans le passé.
C'est quoi votre légitimité à vous, Christophe Boltanski, pour aller espionner la vie de cette femme? Quelle drôle d'idée quand même de guetter une femme qui toute sa vie a été ou s'est sentie un peu persécutée sur la fin ou espionnée le reste du temps, et ça elle l'a été réellement, probablement.
Effectivement, c'est une question qui me taraude. Quelle légitimité j'avais à faire ça dès que quelqu'un meurt et qu'on doit vider son appartement, il y a quelque chose de terrible, d'intrusif. C'est une forme de viol, surtout chez cette femme qui était extrêmement secrète, silencieuse, pudique, qui détestait qu'on fouille dans ses affaires. Donc tous ces gestes que l'on faisait étaient terribles, des formes de trahison. Mais il y a aussi, je pense. Quelque chose de beaucoup plus profond, qui est qu'un fils regarde toujours sa mère, il épie sa mère, il essaye de la comprendre, savoir si, voilà, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ressent, réagit-elle même par rapport à soi-même, par rapport au fils. Et donc on est tous des guetteurs, je pense que les fils sont toujours des guetteurs de leur mère.
Vous êtes un guetteur, mais ce roman, il n'est pas impudique à vos yeux ?
J'ai essayé de respecter aussi certaines choses. Moi,
Il y a des silences.
Des
angles morts.
Enfin, j'avais essayé aussi ça quand je parlais de ma famille paternelle. Je pense que dans des récits de famille, il y a plein de choses. Il y a à la fois des anecdotes, des souvenirs, des légendes, des mythes, des mensonges, et aussi beaucoup de silence. C'est extrêmement fragmentaire. Et cet aspect fragmentaire, moi, c'est ça qui m'intéresse comme matériau littéraire, pour le coup. De respecter aussi ces silences, et même de les faire entendre, ces silences.
De cette quête de mère, Christophe Boltanski, on l'a dit, vous faites une enquête policière à base d'indices, de repérages, de filatures et forcément de reconstitutions. Je vous cite, « Afin de saisir des bribes de leur conversation, je pousse la porte de mon imaginaire et m'accoude au comptoir. Qu'est-ce que vous prenez ?» me demande une femme tronc, chef d'orchestre de percolateur et de tireuse de bière. Sur sa route, à elle, qui rencontrez-vous ?
Je rencontre d'abord... sur la route de ma mère finissant, je rencontre ses voisins, je rencontre un détective privé. Parce que dans
qu'elle avait embauché,
convaincue justement que ses voisins complotaient contre elle, elle les avait fait suivre par un détective. Je rencontre sa psy qui me reçoit comme patient, étrangement, dans une sorte de protocole assez étrange. Je rencontre et aussi, j'ai essayé de retrouver ses camarades de militance. Donc, elle a milité.
Ça, c'est l'eau de vie, la jeunesse.
Voilà. Donc, ça, c'est sa première vie. Quand elle milite dans un groupe de soutien au FLN algérien à la fin de l'année 1961, et donc j'ai essayé de comprendre cette période. Donc j'ai rencontré beaucoup d'anciens porteurs de valises, comme on disait. Oui, je rencontre beaucoup de gens.
Et vous rencontrez aussi votre père, le dénommé Christophe, un nom de code pour lui, une identité pour vous, et vous restituez tout ce Paris des années 50, 60, le Paris des films noirs, celui aussi du temps de la guerre d'Algérie.
Ici Alger, RTF. Depuis 48 heures, les commerçants musulmans d'Alger font grève. Cet ordre de grève a suscité dès hier une énergique réaction des pouvoirs publics. C'est ainsi qu'une dizaine de membres du comité directeur de l'Union Générale des Commerçants Algériens, dont les attaches avec le FLN sont connues, ont été arrêtées.
Oui, cette nuit, les services de la préfecture de police ont procédé à un certain nombre d'opérations dans le 11e, 15e et 19e arrondissement, en fonction de renseignements précis qui avaient été très patiemment réunis.
Il ne peut être question de porter atteinte à l'unité nationale.
Dans son dernier discours, le général de Gaulle a tenu à évoquer à nouveau le problème algérien.
Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore, régler la destination des armes, assurer le sort des combattants.
Un aperçu du climat et des voix de cette époque, Christophe Boltanski, quelle activiste était-elle? Quelle cause servait-elle et pourquoi cet engagement finalement?
Alors d'abord, je pense que c'est toujours une part de hasard, hein, des rencontres qu'on fait. Elle est étudiante en anglais, à l'Institut d'anglais rue de l'école de médecine. Elle retrouve ses amis dans un petit café qui est juste en face, qui s'appelle alors La Fourchette. Et elle va très vite se retrouver dans à faire du ce qu'on appelle du soutien, ce qui est un mot assez imprécis, hein, et qui correspond assez bien à l'imprécision de leurs activités. Ils distribuent des tracts, appelant à l'insoumission, appelant à la désertion. Ils font alors partie, je pense, de quelque chose qui s'appelle Jeune Résistance, qui a été créé par Henri Curiel. Et très vite, en fait, elle va jouer un rôle un peu plus important que les autres, au point d'avoir un nom de code, Sophie, ce qui n'était pas le cas de la plupart des jeunes qui gravitaient autour d'elle. Et elle va surtout accueillir chez elle un des dirigeants de la Fédération de France du FLN, qui est le responsable de la propagande, qui va utiliser son petit studio comme un bureau. Et donc elle le loge, elle réceptionne ses documents et jusqu'au moment où la direction du FLN en France va être démantelée par une vaste opération de la direction de la surveillance du territoire dans la nuit du 9 au 10 novembre 1961, qui va aboutir à l'arrestation d'une trentaine de personnes, donc les principaux dirigeants algériens en France, sur le sol français, et aussi une quinzaine de Français qui les aident, des messagères, des agents de liaison, des gens qui les abritent. Et ma mère, elle, va échapper à cette rafle avec mon père, parce qu'ils se sont rencontrés dans ce groupe. Ils vont se cacher, et c'est à ce moment précis que je vais être conçu, voilà, pendant cette période de clandestinité.
Alors ça, c'est le portrait de cette femme jeune, libre, indépendante, engagée, Qu'est-ce qui va se passer pour qu'à un moment, sa vie redevienne celle d'une femme bien rangée? C'est-à-dire qu'elle retrouve le rang, qu'elle crée une famille et qu'elle sorte de cette semi-clandestinité aussi, enfin en tout cas de cet engagement-là.
Mais je pense qu'il y a une vraie coupure et que j'ai essayé de comprendre justement. Elle arrête brutalement après cette opération de police toute activité militante pendant la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie pour elle c'est terminée. On est donc en novembre 61, les accords de paix c'est mars 62 et l'indépendance interviendra en juillet. Donc 6 mois avant, elle se retire de ce combat et elle va en garder. Ça va être quelque chose de très important pour elle.
Elle vous en parlait par exemple.
Elle en parlait
à demi-mot. Elle était fière de ces années ou
C'était pas de la fierté. C'était un mélange, oui, de fierté, mais aussi de peur. Il y avait quelque chose de non dissible dans tout cela. Je savais que il y avait un certain Lenoir qu'elle avait abrité chez elle et qu'elle avait dû, que le monsieur avait été arrêté et qu'elle avait dû se cacher. Mais c'était tout. Et c'était vraiment un sujet sur lequel elle savait qu'elle ne pouvait pas parler. Et donc évidemment ça. Pour l'enfant que j'étais, ça suscite la curiosité, ça ajoute au mystère.
Oui, vous allez plus loin, vous dites aussi que contrairement aux grands résistances de la guerre de 39-45, cette génération de l'entre-deux avant mai 68 n'a pas vraiment ni tiré bénéfice de cet engagement, ni été reconnue sous aucune forme ou une autre. Donc eux-mêmes ont peut-être digéré étrangement ces années-là de leur vie.
Tout à fait. C'est vraiment un trait commun que j'ai retrouvé chez les autres porteurs de valises. C'est à la fois cette humilité, ces gens qui disent non, on n'a rien fait ou pas grand-chose, à l'aune des grands ancêtres de la résistance. Et c'est aussi des gens qui ont toujours peur, des gens qui disent, l'un d'entre eux m'a dit, pour moi la guerre d'Algérie n'est pas finie. Et c'est des gens qui restent quand même et qui sont restés aux yeux de beaucoup de Français comme des traîtres. Il y a cette phrase qu'on attribue à De Gaulle quand les Algériens du FLN demandent à ce que les Français qui faisaient du soutien bénéficient de l'amnistie générale en mars 62. Il dit, écoutez, occupez-vous de vos traîtres. Moi, je m'occupe des miens.
Wow. Chacun de ces déménagements s'apparentait à une fuite. Victor Hugo, Vaugirard, Alésia, la Butte aux Cailles, la Porte d'Italie, elle dérivait d'ouest en est dans un mouvement irrésistible de translation. Lorsqu'elle changeait de quartier, c'était comme si elle ressuscitait. Durant quelques mois, elle retrouvait le sommeil, la quiétude, la gaieté. Elle s'achetait des fringues, se ruinait en taxi, remplaçait l'ensemble de son mobilier et prenait de grandes résolutions jusqu'au moment où ces monstres la rattrapent. Christophe Boltanski, nos identités dans la topographie des villes, ici Paris. Patrick Modiano en parlait lors de la réception de son Nobel de littérature.
Dans ma jeunesse, pour m'aider à écrire, j'essayais de retrouver de vieux annuaires de Paris, surtout ceux où les noms sont répertoriés par rue avec les numéros des immeubles. Il suffisait de souligner au crayon le nom d'un inconnu, son adresse et son numéro de téléphone, et d'imaginer quelle avait été sa vie parmi ces centaines et ces centaines de milliers de noms. On peut se perdre ou disparaître dans une grande ville. On peut même changer d'identité et vivre une nouvelle vie. On peut se livrer à une très longue enquête pour retrouver les traces de quelqu'un en ayant au départ qu'une ou deux adresses dans un quartier perdu. La brève indication qui figure quelquefois sur les fiches de recherche a toujours trouvé un écho chez moi. Dernier domicile connu. Les thèmes de la disparition, de l'identité, du temps qui passe sont étroitement liés à la topographie des grandes villes.
Alors, s'était-elle perdue, comme le dit Modiano, en tout cas, vous la retrouvez ou vous retrouvez des parties de sa vie par ce pèlerinage, dans la répétition de ses gestes à elle, jusqu'à manger et boire comme elle, Christophe Boltanski, qu'est-ce que vous avez trouvé de vous-même?
Mais je pense que les enfants sont souvent toujours inscrits dans une filiation, voilà un truc très banal, mais donc dans quelque chose qui est du prolongement de ce que vos parents ont fait ou pas fait, et que vos parents vous lèguent. Vous lèguent tout finalement. Ils vous lèguent tout ce qu'ils ont fait, tout leur passé, mais toutes leurs ambitions, toutes leurs promesses inabouties, leurs échecs, et que vous essayez finalement de peut-être parfois de vous libérer de tout cela, hein, mais vous partez de cela. C'est toujours ce point de départ là qui est commun, je pense, à tous les héritiers.
Et toi, mon cœur, pourquoi battu comme un guetteur mélancolique? Votre mère avait griffonné ces mots d'Apollinaire que vous évoquiez tout à l'heure sur la pochette du dit manuscrit. Ces mots qui donnent aussi le titre à votre livre aujourd'hui, Christophe Boltanski. Au mot de guetteur, on accole souvent celui de vigilance ou d'indiscrétion. Mais on parle assez peu de cette mélancolie du guetteur. Ils sont beaux ces mots d'Apollinaire. Est-ce que cette mélancolie, elle vous guette, vous, l'écrivain? Et ou est-ce qu'au contraire, vous diriez qu'elle vous anime dans votre écriture? Quand vous écrivez, que la mélancolie est presque un sentiment positif ou dynamique pour l'écrivain.
Oui, en même temps avec des pièges. Il ne faut pas tomber dans la nostalgie. Il y a une frontière ténue entre la mélancolie et la nostalgie, je pense. Mais oui, bien sûr, on a. Il y a un plaisir de réveiller. Quelque chose qui relève de blessures, hein. Donc il y a quelque chose de très des sentiments très très complexes qui sont à la fois de l'ordre de la joie, de la souffrance dans cet exercice-là de revisiter un passé intime
Et un peu de culpabilité, ça transparaît dans les lignes, parce que à un moment vous racontez ce qu'était sa vie à la fin, quand elle vivait chez elle recluse, vous passiez peu ou plus la voir, vous aviez moins de contact, et puis c'était très difficile de percer cet univers, ce cocon qu'elle s'était créé. Vous écrivez « Ma mère campait au milieu de la salle de séjour, sur un petit matelas à même le sol, avec une pile de livres, un transistor, une lampe électrique, dans un abat-jour en lin, un cendrier en cuivre, une bouteille d'eau et une télé portative, un vieux modèle à tube cathodique avec antenne orientable qui émettait des images granuleuses. Pour une raison demeurée obscure, elle avait abandonné sa chambre, donnant sur cours au chien, ou plutôt à ses laissés. De toute évidence, elle ne le promenait plus. Chips avait transformé son trois pièces meublées avec goût, situé dans la rue calme du 13e arrondissement de Paris, en vaste latrine. Il se soulageait de préférence sur les coussins, les dessus de lit, les tapis persans, dans les coins ou le long des plinthes. Je vous parle de la culpabilité parce que on a probablement tous vécu ça. C'était difficile d'entrer dans son univers et en même temps, quand vous avez dû déménager cet appartement, le jour, les jours qui ont suivi sa mort, vous avez réalisé aussi à quel point elle était une femme seule et vous n'aviez pas pu empêcher ça.
Tout à fait, oui. Je pense qu'elle s'est coupée. Elle s'est coupée de tout le monde. Hein. Elle s'est isolée, mais elle s'est coupée aussi de nous, aussi par générosité, par une forme de générosité pour nous protéger, je pense. Mais c'est effectivement quand elle est tombée malade et que là ma sœur et moi on l'a pris en charge pendant 2 ans, on a redécouvert dans les conditions dans lesquelles elle vivait qui étaient terribles. Donc c'était comme on lit parfois dans la presse ces faits divers sur ces vieilles dames qu'on retrouve décédées chez elles au milieu de leurs ordures. Et ça a été une vision extrêmement traumatisante et qui est sans doute un des points de départ de ce livre.
Et c'était peut-être aussi une situation que vous ne vouliez pas voir ou auquel vous ne pouviez rien faire, ce qui est juste, enfin, étonnant, ce retour de boucle avec le guetteur, cette idée qu'aujourd'hui, vous allez regarder, vous allez la regarder de plus près et ne plus détourner le regard. En même temps, peut-être aussi que sa solitude, cette solitude la protégeait, c'est ce que Emmanuel Lévinas évoquait, cette solitude de l'être, cette solitude qui apparaît comme l'unité indissoluble entre l'existant et sa capacité à exister, cette solitude, elle était à elle. Il y a une filiation littéraire, voire épistolaire, aussi avec l'écrivaine Annie Arnaud qu'on a retrouvée dans votre roman, Christophe Boltanski. Elle revenait dans les mots qu'on va entendre il y a quelques années sur France Culture, sur le titre qu'elle avait choisi pour son journal « Je ne suis pas sortie de ma nuit » paru chez Gallimard en 97. «
Elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et de façon progressive, mais elle a écrit, c'est au fond la dernière lettre qu'elle a écrite et qu'elle n'a pas pu continuer d'écrire. Elle a écrit « Chère Paulette » à une amie, « Je ne suis pas encore sortie de ma nuit ». Et cherchant un titre pour ce qui est un journal, qui est le journal en fait de mes visites à elle, à l'hôpital, et aussi de tout ce que je pouvais éprouver au fur et à mesure de la vue de sa dégradation. J'ai pensé à ce titre, c'était une façon, je veux dire, qu'elle soit là, avec ses mots, dans ce livre. Mais c'est pas un livre qui est gorgé de bons sentiments, hein, c'est pas ça du tout, je crois que c'est au contraire toute l'ambivalence que l'on peut éprouver vis-à-vis d'une femme, ma mère, qui avait toujours été violente, forte et très lucide, et qui, d'un seul coup, plonge effectivement dans un état qui en fait mon enfant et plus ma mère.
Reprendre ces mots à elle, donner à ce roman le titre qu'elle avait choisi pour son ébauche de polar, une manière, comme dit Annie Ernaux, peut-être pour vous aussi, Christophe Boltanski, de la faire exister dans votre livre avec ces mots à elle, de lui succéder aussi dans son entreprise littéraire.
Oui, il y avait une envie de prolonger ce livre qu'elle n'avait jamais écrit, une idée de réparation, je pense. Mais, et il y avait aussi, parce que ma mère avait donc ses obsessions, hein, ses peurs, elle était convaincue que les gens se liguaient contre elle, elle entendait les voix, elle pensait que son téléphone était sur écoute, et tout cela, évidemment, c'est pour moi, c'était difficile à entendre quand elle me disait cela. Donc on essayait de contourner cela par le rire. Elle pouvait même parfois en rire. Il y avait un côté très loufoque. Mais j'ai voulu, dans ce livre, d'une certaine manière, prendre sa folie au sérieux. Donc d'explorer ses peurs aussi. Donc de chercher qui pouvait être le guetteur, puisqu'elle se sentait guettée. Mmh. Et donc de raconter son histoire un peu comme un polar. Et pour découvrir finalement qu'elle a été guettée, très certainement, non pas par ses, je pense, par ses voisins, mais très certainement par la police, par la direction de la surveillance du territoire à la fin de la guerre d'Algérie.
Avec la cache, le guetteur forme un diptyque, une enquête familiale, une généalogie littéraire que vous allez prolonger. Est-ce que la troisième partie, ce sera l'autobiographie totale ou
Je ne sais pas.
C'est pas décidé encore.
Non, mais c'est vrai que dans les deux livres, il y a une quête de l'origine. Mmh. Il y a une tentative d'essayer de comprendre à qui, à quoi, à quel hasard, à quelles circonstances on doit la vie. Donc, mais je crois pas que je vais forcément prolonger cet exercice-là.
Vous êtes aujourd'hui, Christophe Boltanski, à la revue 21. C'est la revue des dessinateurs et des auteurs qui pratiquent aussi une forme de non-fiction writing, à l'instar des journalistes appliqués, à l'instar des Américains appliqués au journalisme. On se dit que là, vous êtes vraiment maintenant au bon endroit, au bon moment. C'est aussi la revue qui va vous permettre de finir cette transition, d'achever cette transition entre le journaliste et l'écrivain.
En fait, j'ai adoré. Hein, j'ai passé un an et demi à 21, et c'est une très belle revue. C'est une très belle revue.
Vous êtes en train de me dire que vous n'y êtes plus.
Non, je n'y suis plus.
J'ai loupé votre départ.
Depuis cet été.
Ah, mais je ne savais pas. Ben voilà, c'est ça, les vacances. On prend des vacances, on passe à côté des grandes infos. Mais vous faites quoi alors?
En fait, j'avais envie de revenir à l'écriture. J'avais envie de revenir à... même au reportage et retrouver le terrain.
Ben voilà, j'avais un petit peu anticipé finalement sur votre départ, mais le diagnostic n'était pas faux. La transition, la mue est achevée. Merci beaucoup à vous, Christophe Boltanski.
C'est moi qui vous remercie.
Le guetteur vient de paraître chez Stock.